que je t'accompagne ici. Vous avez pas idée à quel point je t'accompagne et encadré. Je me sens comme un lion en cage. Arrgh. Salut Audrey Bajot. Oh, j'ai pas allumé ton micro.
Bon. Salut Yannick Marceau.
Ah, content de te voir.
Mais moi aussi, tu te sens comme un lion en cage.
Oui, parce qu'aujourd'hui, okay. 10h, faut que je parle du défi ours polaire. À 10h15, j'ai des nouvelles avec Max. À 10h20, j'ai Marc Hamilton, mon chum que j'adore, qui est microbiologiste et président d'Eurofin Environex, qui va venir faire son tour. 10h45, météo, circulation. 11h, les billets pour Cypress Hill.
Tu vois comment je... Non, mais regarde... T'as quelque chose devant toi, t'en fais ce que tu veux. C'est ça qui est le fun.
Il y a même un sujet que je peux aborder avec toi. L'industrie du tatouage a-t-elle atteint ses limites? Tout est là!
Elle essaye de travailler fort.
Ouais, puis il me paye pour ça, pour répéter tout ça. Là.
C'est capoté, hein?
Ah ouais, c'est capoté. Je me demande qui est le plus grand gagnant dans tout ça. J'imagine que c'est moi.
C'est à toi de voir, mais c'est quand même un peu un plateau quand on y pense. Là.
Exact.
C'est pas pire,
c'est un beau plateau.
Là, t'as le choix de manger ce qu'il y a dedans ou pas. C'est ça qui est le fun.
Ouais, ouais, ouais.
Si tu manges pas ce qu'il y a dedans, y a quelqu'un qui va être fâché d'avoir cuisiné, par exemple, pour rien, tu sais.
Ouais. Hey, c'est drôle que tu me parles de ça, puis j'avais pas prévu parler de ça avec toi là, puisque c'est écrit météo, donc on va faire la météo.
T'es pire, là.
En fin de semaine, dimanche soir, alors on va faire la météo tantôt, OK? Dimanche soir, il y avait quelque chose de cool là, à télé, là. C'est, les gars, ils se tiraient comme un ballon, là. C'est quoi, là?
Dimanche soir.
Le Super Bowl.
Super Bowl.
Ouais, c'est ça.
Tabarnouche, tu vois que moi, je suis encore déphasé.
Oui,
hein?
Et après ça, il y avait le show de Kendrick Lamar.
Oui.
Ouais.
Tu l'appelles plus Kendrick Lamar?
Mes enfants l'ont appelé Kendrick Lamarde, alors que c'était la raison pour laquelle ils écoutaient le Super Bowl en 20 semaines. C'était pour voir ce show-là. Finalement, ils ont été très déçus. Mais j'avais une petite discussion avec eux autres sur la propreté. Quand les enfants mangent en même assiette que tout le monde.
Ouais.
On avait fait des nachos à la maison. Ce qui fait en sorte qu'on avait tout chacun une petite assiette. Puis après ça, ben, on avait un gros nacho qui était dans le milieu. Puis à un moment donné, j'ai pris un de mes gars, le plus jeune. Il est sorti de prison hier, en passant. Là. Il a pris un nachos avec ses mains. Ça me dérange pas, c'est bien correct. Il aurait pu le prendre avec sa fourchette puis ses mains sans aucun problème puis mettre ça dans son assiette.
Il a pas liché ses doigts.
Il a liché ses doigts après. Puis après ça, il a remis ses doigts directement dans le nachos.
Oh!
C'est pas grave, c'est mon enfant.
Ouais, c'est ça, c'est différent, mais quand même.
Ce que je lui ai expliqué, c'est que si, exemple, il y avait eu la grippe, ben il aurait refilé la grippe à toutes les personnes qui partageaient son nachos.
Ben oui.
Puis les gars me croyaient pas. Les gars me croyaient pas du tout.
Ils croyaient pas que la bave était transmetteur
non.
de...
Non, mais il y a 8 ans.
Petit.
Fait que tu comprends. Ils disaient, non, c'est pas moi, je donnerais pas la grippe.
C'est ça, en plus, que quand c'est papa qui le dit, généralement, là, c'est toujours de la bullshit. Hein?
Là, j'y ai dit aussi l'inverse, que s'il touche à des surfaces où ça peut être très sale, ben, il peut se ramasser avec une gastro.
Parce que c'est de même que tu l'attrapes.
Parce que c'est comme ça que tu l'attrapes. Les poignées de porte, tu peux attraper la gastro sur la poignée de porte. Donc, tu vas toucher la poignée de porte. Après ça, tu vas te ramasser avec la main quelque part dans la bouche. Puis finalement, tu vas pogner cette fameuse gastro.
C'est tellement banal.
C'est super banal. Mais c'était une drôle de discussion que j'avais avec mon gars, puis ça s'est continué dans le char, parce qu'il était persuadé que c'était pas vrai. Là.
Arrête donc!
Ben, il était un peu insulté, parce que j'y ai parlé de ça, puis à 8 ans, tu comprends qu'il veut faire sa vie, c'est sa propre vie.
Il veut faire ce qu'il veut, ben oui, c'est un grand garçon.
Il est capable de voler de ses propres ailes à 8 ans. Fait que je parlais dans la voiture, puis je disais, tu sais, Isaac, t'as beau pas me croire, mais c'est ça pareil, quand on est en groupe, on essaye le plus possible d'utiliser des ustensiles, pas se licher les doigts, puis après ça, toucher à la nourriture des
autres. Double dip, on fait pas ça.
Double dip. Il y a encore des adultes
je sais.
Qui le font sans s'en rendre compte. Là, parce que quand tu t'en rends compte, à un moment donné, tu le fais pas intentionnellement.
Il y a une barrière.
Ta conjointe, ça dérange pas.
Oui, mais moi, tu sais, mettons souvent, là, moi, je vais double dip, mais pas du même sens. C'est-à-dire que quand je vais être avec des amis ou des gens que je connais, mettons qu'on serait à job, on aurait un 5 à 7, puis je mange un bout de carotte, ben je vais virer ma carotte de bord pour pouvoir retremper dans la sauce, mettons. Mais ça, je pense qu'il faut comme que tu regardes avec les gens autour de toi c'est quoi la limite. Mais sinon, t'en mets un peu dans ton assiette de la sauce, là. Mais il y a des gens qui ont le double dip très, très, très facile. Je connais des gens qui lichent leurs ustensiles puis qui repigent avec leurs ustensiles qu'ils viennent de licher. Ça, c'est l'horreur.
Non.
Moi, je veux dire, il y a un pot de pickle au centre de la table, puis tu piges avec ta fourchette. Là. Je retouche pas à ça, là.
Ouais.
Il n'y a aucune chance.
Moi,
là.
Mes gars, c'est correct. T'sais, quand ils mangent dans mon assiette, ça me dérange pas. J'ai pas de trouble avec ça. Ma conjointe, j'ai pas de trouble avec ça. Mais des chums proches, non. C'est mon assiette.
Est-ce que tu te poses la question quand tu manges chez des gens, mettons, la façon dont les choses ont été cuisinées? Je te donne un exemple. Dans ma famille, mettons, il y a des gens beaucoup qui se lichent les doigts. Où ils vont goûter, ils vont tremper leurs doigts pour goûter la recette est rendue. Ou ils ne se laveront pas les mains. Ils cuisinent, puis je veux dire, ils se lichent les doigts, puis ils goûtent, ils vont prendre la cuillère, puis ils vont double dipper dans leur préparation. C'est-tu quelque chose à quoi tu penses? Moi, je suis quand même dédaigneuse, fait que c'est quelque chose que j'ai en tête constamment.
La personne qu'on va avoir vers 10h20 là, est responsable de ma maladie mentale.
Ah, mais j'en doute pas.
Quand je l'ai rencontré, ça faisait longtemps que je l'entendais, je le trouvais franchement intéressant, Mark Hamilton, le microbiologiste. Puis à un moment donné, j'ai dit, on va faire des tests dans le studio, tu sais, sur toutes les surfaces possibles. Puis après ça, il est arrivé avec les résultats, Audrey. Puis depuis ce temps-là...
Ça doit être dégueulasse.
Je suis germophobe.
J'en doute pas.
Les poignées de porte de toilette, j'ai vraiment de l'air bizarre, mais je prends toutes les techniques possibles pour ouvrir la porte sans toucher à la poignée de porte.
J'en doute pas.
C'est la même affaire pour ce qui est de la porte du studio ici. Je
Qu'à ce point-là, là?
Partout, à part chez nous. Puis chez nous, à peu près une fois par semaine, une fois par deux semaines, je fais le tour des poignées de porte.
Tu laves toutes?
Puis je lave toutes. Puis j'essaye le plus possible d'aseptiser là, les lumières, parce qu'on taponne les lumières. Fait que j'essaye le plus possible. Aux deux, trois semaines, j'essaye de le faire.
Moi, je vis dans le déni. Je le sais que toi, t'es crotté autour de nous autres. Mais je vis vraiment dans le déni parce que s'il fallait que je voie ou que je sache le nombre de bactéries sur les objets qu'on touche au quotidien, je pense juste aux moumoutes dans lesquelles on parle, nous autres. Toi, t'en mets pas, là?
Non.
Mais je pense aux moumoutes, là. Toi, c'est-tu ce qu'on entend le plus dans un show quand on t'écoute?
Ma barbe.
Ta barbe, c'est épouvantable. Fais-le, juste pour que les gens l'entendent et comprennent. Là. Yann se joue après la barbe pendant qu'il jase. Là.
Mais, ça, c'est quand je suis concentré.
Oui. Ce que j'allais dire, c'est que la moumoute, au nombre d'invités qu'on reçoit, au nombre de gens... Tu sais, il y a des animateurs qui vont traîner la leur, mais t'as des moumoutes universelles dans le studio. Je veux même pas savoir ce qu'il y a là-dedans. Je veux jamais être au courant... Tu sais, des fois, la moumoute, tu le vois, il y a des motons blancs, là, c'est parce qu'il est temps qu'on y passe au lave-vaisselle. Il faut pas que je sois concentré, je vais capoter.
Tu sais, la plongée sous-marine.
Ouais.
J'adore la plongée sous-marine. J'ai mon propre stock. Puis c'est correct, tu sais. Mais quand je vais dans le sud, je peux pas amener mon propre stock, à part quelques trucs que je peux apporter dans ma valise qui fait en sorte que je prends le stock là-bas.
Puis ils disent qu'ils désinfectent, mais...
De location. Puis là... Moi, j'ai vu comment ils désinfectaient. Là.
Épouvantable.
Fait que là, je les ai vus le désinfecter, puis après ça, je me suis dit, regarde, je vais le faire moi-même. Fait que là, j'ai trempé mon truc dans l'eau salée, là. Puis je l'ai shaké, puis je l'ai frotté, puis j'ai essayé de l'aseptiser le plus possible. Je me suis mis ça dans la bouche. Mais sérieux, j'avais des hauts le cœur dans les premières secondes.
Avec raison.
Je sais pas pourquoi on est rendu comme ça, mais bref, quand vous avez ces discussions-là avec vos enfants, tu sais, c'est-tu aussi. Ils se sentent-tu insultés?
Pas une question. Moi,
j'essaie de les éduquer pour que, quand ils vont arriver dans la société, ils soient pas considérés comme des gars et des filles bizarres.
Pas polis.
Exact.
Ben oui, parce que c'est de même que t'es perçu, là, on va se le dire. On remarque toute la personne qui fait faux pas dans un buffet.
Tu prends ton petit bout de carotte, puis après ça, si tu le trempes, tu mets le bout que t'as pas mis ta bouche dessus.
Mm-hmm.
Comme toi, tu fais.
Mais là, il y a des auditeurs qui nous disent « Ben oui, Maudry, t'as quand même mis tes doigts crottés dessus. » Ils ont pas tort. Ils
ont
vraiment pas tort.
Ça a été mon premier réflexe.
Ils ont vraiment pas tort. C'est des choses auxquelles il faut que tu penses. Mais ça, ça fait partie, au-delà des bactéries, ça fait partie des bonnes manières du quotidien, tu sais.
Ouais.
T'attends-tu avant de manger à table que tout le monde soit assis? Tu te lèves-tu quand t'as fini ou t'attends que tout le monde ait terminé avant de quitter la table?
Si j'arrive chez vous, tu me dis « J'ai préparé un souper, puis t'as pas de l'air propre, je vais avoir de la misère. »
Tu vas de la misère à
manger. Ça se peut que je dise que je fais le pas, je vais juste prendre un verre.
Je te suis à 100%
là-dessus. Souvent, je vais aller rincer le verre.
Il y a du monde chez qui je ne mange pas, mais je te comprends. Hey, le pire, c'est que nous autres, même dans la famille, on est dédaigneux. Mon petit frère est le pire de la gang.
Ouais.
Mon frère, là, même si ses coupes sont lavées dans son armoire, là, même si c'est les siennes, va avoir un réflexe de rincer avant de mettre du liquide. J'ai le même réflexe.
Mm-hmm.
Fait que je pense que c'est juste... Tu l'as ou tu l'as pas? Êtes-vous dédaigneux 88-971-101? Mais moi aussi, c'est des choses auxquelles je pense.
Ouais. On a des petits défauts comme ça, ce qui fait en sorte qu'on est un peu bizarre, mais ça nous rend attachants.
Ah, charmant qu'ils disent. Ouais. Oui,
j'ai fait une place hier, je me rappelle pas. C'est où... Ah, je pense que c'est une station-service, fait que ça n'a pas d'importance, mais il y a un endroit où c'est vraiment nice. Ils ont mis un genre de truc au seuil de la porte, donc en dessous de la porte. C'est vissé directement en dessous de la porte. Puis quand tu veux l'ouvrir, tu prends ton pied, puis tu le recules, c'est à l'archibald.
Ah.
Fait que la porte, elle s'ouvre sans que tu aies besoin de prendre tes mains.
Ah, c'est intelligent, ça.
Ça, là, je sais pas où ça se vend, mais sérieux, je trouve ça génial. Puis toutes les entreprises ou les restaurants devraient avoir ça.
Mais je t'apporte autre chose, par exemple, Yann. Quand on a parlé à Mark Hamilton, le microbiologiste, la dernière fois, on parlait de quel point on était aseptisé.
Je suis entièrement... Je sais exactement où tu vas, mais je vais te couper court.
Ça t'écœure.
Moi, à partir du moment où je sais très bien que dans la société, il y a des gens qui vont faire des numéros 2, qui s'essuient,
puis qui se lavent
pas les mains, je vais faire ce que je veux.
Mais
c'est
ça
tout.
Nous crée des anticorps.
Ah oui, mais c'est...
Toi, tu veux pas d'anticorps.
Non, c'est, je veux pas... je veux mes anticorps, mais je veux pas ceux
c'est
qui...
des autres.
C'est ça. Ouais. Ton ADN, tu la gardes chez vous. Puis, tu sais, tous ceux qui ont déjà été dans des cabinets de toilettes, là,
ouais,
qui sont assez observateurs, des fois, tu regardes le mur et tu te dis, mais comment ça a fait pour se
comment
rendre
ça s'est
jusque
rendu là? C'est vrai.
Puis t'imagines, hey, la position du gars. Attends un peu, là, ça revolait au plafond. Fait qu'il était... Comment, tu sais? Mm.
Le pire, c'est vous autres, les gars. Vous réalisez pas à quel point vous en mettez partout à terre. Faudrait que tu passes...
À terre?
J'ai vu... Ben oui, quand vous faites pipi, là, toi, tu parlais de numéro 2, mais les gars, là, j'ai vu une vidéo la semaine passée.
Je veux pas parler de sa vie. Juste à dire que moi, elle est assez longue pour avoir du visu.
Oui, mais attends. Sinon, c'est un problème familial et de belle famille parce que là, je me sens at large, là. Il y a un problème que vous avez avec le visu et où vous ne réalisez pas plutôt que ça rebondit. Il y a des gouttes qui vont aller sur la toilette, mais aussi
t'es
par terre.
Après, là.
Oui, mais vous vous en rendez pas compte des fois, c'est épouvantable.
Moi, là, je veux dire, c'est interdiction à mes gars de ne pas essuyer puis de ne pas de ne pas fermer le clapet de la toilette. Parce que leur mère, elle s'assoyait dedans. Elle est aveugle la nuit. Fait
ben
qu'elle
oui,
marchait.
Oui, oui.
Puis elle allait s'asseoir dans le fond de la toilette. Fait que très
je pense
jeune,
que je vais apprendre à mes gars à faire pipi assis. Là.
Très jeune, je leur... Non.
Pourquoi non?
Parce qu'après ça, ils vont se ramasser à l'école, ils vont s'asseoir dans la piste des autres. Fait que c'est non, Audrey.
Okay.
Mais c'est ça, très jeune, je leur disais, ouais, mais c'est parce que votre mère tombe dans le cabinet de toilette. Ouais. Eux autres, ils trouvaient ça drôle, là, mais
ouais,
je peux te dire que
ils
moi, à 3h du matin, ils l'entendent beugler parce que je suis mon plus vieux. Ben oui, il avait raison, tu sais.
Parce que pour l'avoir vécu, il n'y a rien de moins agréable
fait,
que
fait,
ça.
Quand
là,
ils sont chez nous, à quelques exceptions près, là, quand il y a une game de PlayStation, mettons Xbox, là, c'est-à-dire, quand ils sont chez nous, sont hyper respectueux des filles dans la maison.
Bon.
Ils nettoient s'il y a du dégât, puis ils ferment constamment le clapet. Fait que je suis pas le père parfait, mais c'est bien quelque chose que j'ai réussi avec mes deux imparfaits, c'est bien de respecter les femmes au
ben,
niveau des
bravo,
toilettes.
Bravo, parce ben, oui, que, écoute, même dans ma famille, quand on reçoit, des fois, il y a des boys qui laissent la bolle levée, puis je trouve ça insultant bien raide. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu une vidéo la semaine passée où le gars avec un genre de laser, puis les lumières fermées, scanne la salle de bain, puis tu vois toutes les gouttes de pipi. Ses murs autour de la toilette, à terre autour de la toilette. Puis c'est subtil, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. Tu regardes, ça a l'air bien clean, là.
Ouais.
Mais ça s'accumule, ça sèche, tu comprends. Tu t'en rends pas trop compte, c'est dégueulasse.
Mm-hmm. Ah ouais.
C'est horrible, là.
J'en doute pas. Fait que c'est important de respecter les filles, les gars, puis se respecter soi-même.
C'est bien propre.
Je voulais te parler de ça. Il y en a qui ont des idées coquines pour la Saint-Valentin. Je trouve ça vraiment nice. Les gens de gars célibataires, puis les filles célibataires, là, ils s'organisent des soirées de speed dating.
Ah!
Je trouvais un peu weird pour la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Donc, les gens qui sont déjà en couple, mais dans le fond, qui je suis pour juger, tu es célibataire, tu veux t'amuser, tu vas aller dans une soirée de speed dating.
Puis à la base puis, de l'histoire, c'était ça.
En bout de ligne, l'important, c'est qu'on baise après.
Oui, c'est ça, exactement.
Couple
c'est
ou pas couple.
Bien
c'est,
finir la
c'est,
soirée.
Je trouvais que c'était une bonne idée. C'est dans le Soleil que j'ai pogné ces idées-là. C'est Francis Higgins du Soleil qui parle de speed dating. Après ça, il y a des célibataires qui vont tout démolir.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ça, j'aime ça.
Ah, parce qu'ils ont trouvé leur moitié.
Non, c'est des célibataires. C'est des célibataires enragés. On en connaît, là, Pascal CV en est une.
Oui, vraiment enragé.
On pourrait l'inviter au Hécatombe ou encore au Tomahawk Québec.
Ah, c'est hot, ça!
Ouais, Hécatombe, tu détruis tout ouais, ce qu'il y a dans la pièce. Mettons une télé, une vieille télé. Là,
des
là,
assiettes.
Qui fonctionne plus.
Ouais.
C'est que ça a l'air que ça défoule. Ça passe des frustrations.
Bien, je trouve ça très bon comme activité. Ouais. Puis même que ça pourrait être une affaire de date. On est deux célibataires, on va se défouler, puis peut-être que tu closes bien ta soirée.
Je suis pas sûr qu'une date avec une fille, puis je me rends compte qu'elle vire complètement folle dans la salle. Je suis pas sûr que j'ai le goût que ça continue.
Moi, c'est le genre de date que j'aimerais.
Chez nous, elle me tirerait des assiettes. Là. Tu sais, c'est...
Ah ouais.
Ouais?
Ah, je sais pas. Moi, je suis tellement mal à l'aise dans le dating.
Ouais.
Moi, aller prendre un verre, un café, t'es pris là, à une table, il faut que tu parles. Là.
Ouais.
J'ai ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Fait que c'est le genre d'affaires que je ferais en date.
Fait que les salles de démolition à Québec, on en a deux très intéressantes. Là. D'ailleurs, je pense que j'avais déjà eu une entrevue avec le gars d'Hécatombe, puis les gars Giga de Tomahawk Québec.
Donc, en bas de la pyramide.
Hécatombe et Tomahawk Québec, c'est deux endroits pour aller tout péter si vous venez de vous séparer oui. ou encore si vous êtes une célibataire enragée. Comme certaines personnes.
Oui, c'est ça. Renomme pas. Si non. tu veux passer un beau midi. Là.
Sinon, à Québec, on a plein d'affaires super cool. On a le village nordique. On oui. en parle régulièrement. On a le tournoi international de hockey Pee-Wee, Carnaval de Québec, Pentathlon des Neiges.
Oui.
Fait que ça, célibataire, ça fait passer le temps.
Absolument. Je les trouve que c'est une super belle idée.
Les premières dates, ça fait passer le temps aussi. Fait que ça sort de l'ordinaire de on va aller au cinéma. Genre.
Ah ben oui, mais ça, c'est ça.
Les deux sont rivés devant l'écran, ils se parlent pas.
C'est quétaine, c'est pas le fun. C'est comme des dates malaisantes. On peut aller ailleurs. Il y a tellement de belles affaires à faire à Québec. Là.
Ouais. Après ça, il y a des trucs pour les gens bizarres. Le yoga fitness.
Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Je conseille. Allez faire un yoga show avec votre date. C'est particulièrement le fun. Tu te vois ton pire. Après ouais. ça, oui. Puis rien qui t'arrête. Là.
Yoga show.
Ben oui. Tu vas faire un yoga. Tu sais, cette affaire-là que tu dis que c'est pas un sport, là.
Non, non, oublie ça, là, tu plies, il plie de partout. Là. Sinon, du plein air entre célibataires ou pour des rencontres. Ça, je vais t'avouer que je vois de plus en plus ce modèle-là se reproduire. Puis si un jour je retombe célibataire, je t'annonce que la personne qui m'offre d'aller monter le Mont-Saint-Anne la première journée, tu sais quoi? Vas-y, je t'attends en bas avec une bière.
Arrête!
Puis après ça, on ira au restaurant.
Oh, mais là, c'est une question d'intérêt, parce que si t'aimes ça, le plein air, ben, aller monter un hike, ça peut être le fun. Ouais.
Moi, j'aime ça aller me promener. Exemple, dans Vallée-la-Jacques-Cartier, là, il y a plein de beaux sentiers, puis j'y vais tout seul. Le dernier que j'ai fait, c'était un sentier d'à peu près 11 km, mais c'était dans des pentes là, épouvantables. J'ai failli crever là.
Fait que tu voudrais pas crever avec une nouvelle date.
Mais le faire tout seul, je trouve ça cool. Mais sinon, si tu vas dans des petits sentiers, mettons un genre de 5 km où tu peux marcher. Là,
ça se fait bien.
Ça se fait bien. Tu sais, pour apprendre à connaître l'autre, là.
Ouais. Non, j'avoue. Je préférerais ça encore une fois qu'un petit verre. Surtout qu'il faut se dire que vendredi, là, parce que la Saint-Valentin tombe un vendredi, tous les restaurants vont être pris, tous les bars, le fun vont être pris. Essayez d'être original. Êtes-vous célibataire? 88-971-1021. Il y a quelqu'un qui nous demande par le texto « Yoga show, c'est quoi? » Je pense qu'on a donné une idée à quelqu'un.
Je vais risquer. C'est du yoga avec de la chaleur.
T'es là, comme attends, là,
dans une pièce où il fait chaud puis tu fais du yoga.
Là, je vais répondre sérieusement à la question, OK? Parce que yoga chaud, c'est un des yogas où t'es pas obligé d'être bon parce que c'est pas du yoga avec des positions extrêmes. C'est 26 postures assez simples à 42 degrés sec dans la salle. Fait qu'il fait chaud, c'est un mot tadine de temps, mais ça fait que t'es plus flexible, la chaleur. C'est assez surprenant. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis ben c'est bon pour la souplesse et compagnie, là, mais faut que t'aimes à la base le fait de t'étirer puis de te recentrer un peu sur toi-même puis d'être tranquille.
Ouais. Es-tu capable de me traduire le texto de Nicolas de Beauport?
Je peux tenter de faire ça.
Nous écrire, c'est bien. Vous relire avant d'envoyer, c'est beaucoup mieux.
Jenny? Faut pas oublier que Audrey nous a déjà dit qu'elle...
C'est ça, t'as bugué à la même place que moi.
Ben là, je m'excuse, je pense pas que j'ai dit une affaire de même en nombre. Je pense pas que je vais le répéter.
J'avais espoir.
Hey, là, la gang, là, ouais. Franchement, c'est pas des propos qui vont se rendre en nombre. Donc, si on revient à nos petits moutons, ça m'a complètement déboussolé.
Oui, hein? T'as-tu déjà dit ça en nombre?
C'est sûr, j'ai jamais dit ça en nombre, Yann.
Non?
Non. S'il y a une affaire que je me jure quand je parle en nombre, c'est que j'implique jamais mon chum trop personnellement.
Oui. Mais ça m'en aurait dit beaucoup sur ta personnalité. C'est juste que, tu sais...
J'ai jamais dit ça en nombre.
Mettons, sur des sites louches, c'est parmi les catégories les plus recherchées.
Si j'ai déjà parlé de ça en nombre... En passant, pour les gens qui comprennent rien, on parle de pratiques sexuelles très précises. Là. Ça devait être en blague ou ça devait être dans un contexte très précis parce que j'ai jamais affirmé une chose comme ça. Je suis un livre ouvert, mais j'ai quand même mon petit jardin secret à entretenir. Et ma relation par le fait même.
Et parfait! Parfait.
Il faut quand ouais. même. Là. Ouais. Il y a des gens qui proposent yoga, vodka pour une date, ça peut.
Ouais.
Est-ce que tu bois ta première date?
Très peu, un genre de 2 verres maximum.
Il y en a qui ont besoin parce qu'ils ont peur. Ouais.
Parce qu'après ça, j'ai un marathon à faire.
Oui, mais c'est ça. Fait que toi, tu t'en...
Je j'ai un 42 km.
Faut que tu restes en forme.
C'est ça.
J'en pense. C'est intéressant, tout ça.
Mais il y en a qui, pour combler le stress, ben, mm-hmm. en fait, la personne avec qui j'ai fait 2 enfants, la mère ouais. de mes gars, là, la première date était complètement saoule.
Arrête!
Elle avait pris...
Puis elle t'a charmé quand même.
Une bouteille et un verre. Puis, tu sais, pas haute patte, là. Ils ont comme oublié d'y mettre des mollets, là. C'est...
Puis, ça rentre au poste plus facilement.
Fait que là, fait, ben, on était jeunes, là. C'était en 2006.
Oh, mon Dieu!
Fait que là, ça fait des années, des années. Puis, c'est ça. Elle avait pris comme l'équivalent d'une bouteille plus un verre. Puis, je la trouvais vraiment tough. Sauf que dans le char, elle s'est endormie.
Ah!
Fait que je suis allé la reporter chez ses parents à l'époque.
T'es un gentleman.
Ouais. Là, puis j'ai l'aidé à monter marche. Elle a ouvert la porte.
Pauvre.
Elle a merci, c'était très agréable.
Mais c'est plus charmant dans la vingtaine que dans la quarantaine. Quarantaine, quelqu'un qui boit trop, moi, ce serait un red flag qu'on appelle assez facilement.
Célibataire, Valérie qui dit « Je suis célibataire. La plupart des gars avec qui je parle m'envoient toujours des dick pics. Je suis tanné des applis de rencontre. »
Ah, c'est détestable, ça. Mais Valérie, pour vrai, petit conseil, il y a beaucoup de bars vendredi qui vont faire justement ces affaires-là de speed dating puis de rencontres. Puis c'est peut-être une façon plus agréable que de le faire via les applications, là.
OK. Nicolas de Beauport t'a réécrit, Audrey.
Qu'est-ce qu'il dit?
Ben, c'est à toi de nous le dire.
Il dit « Oui, t'as parlé de tes pratiques plus personnelles lors de l'entrevue avec la sexologue à propos de l'hygiène. T'as mentionné... OK. Là, je me souviens.
OK.
C'était contextuel.
Mais ça se dit pas.
C'était contextuel.
OK.
En fait, comment je dis ça sans avoir l'air?
Ouais, je te dirais que t'es aussi bête de pas le dire sans avoir l'air.
Non, okay.
C'est pas à bonne place.
Je disais simplement que les partages de fluides corporels devaient se faire des deux sens dans un couple. Vous en déduisez ce que vous voulez.
Et on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça. Non célibataire, plus. Je ne cherche plus, ça viendra quand ça viendra, il n'y a rien qui presse, on est bien seul. Quand je faisais la tribune libre le soir, là, soir de Saint-Valentin, exemple, ce genre de sujet qui nous venait en tête pour jaser, puis il y avait une femme, je ne me rappelle pas de son nom exactement, mais c'était une dame de Lévis qui était à peu près dans la quarantaine. Puis ça faisait 10 ans qu'elle était célibataire. Puis ça faisait 10 ans qu'à chaque année, elle souhaitait rencontrer l'amour.
Ah.
Puis il y en a beaucoup de ce genre de personnes-là, hommes comme femmes, soit dit en passant, là, qui, eux autres, après tant d'années, sont prêts à rencontrer l'amour. Sauf que ils attendent que ça cogne à la porte de leur condo.
Ouais, c'est ça,
ils attendent que ça cogne à la porte de leur maison ou ils attendent que ça arrive de façon impromptue à l'épicerie. Puis là, je demandais, tu sais, mais... Qu'est-ce que vous faites pour... je l'ai tutoyé dans le temps. Qu'est-ce que tu fais pour rencontrer, puisque là, tu es prête? Ben, je fais rien, ben, j'aimerais ça que ça m'arrive. Ben, j'ai dit, parfait, commence à regarder les gens dans les yeux quand tu es à l'épicerie. Envoie des sourires, envoie des messages qui vont dire que, mais hey, salut, je suis prêt à parler.
Je suis ouverte.
Pas à baiser, mais à parler, tu sais.
Ouais.
Puis elle semblait pas comprendre qu'il fallait qu'elle se mette en marche, elle, de son bord, pour qu'à un moment donné... Ça cogne à la porte.
Ouais. C'est un enjeu, j'ai l'impression, qui est très, très présent en ce moment aussi au niveau de la société. Je veux dire, on perd beaucoup nos skills humains, nos skills relationnels. On n'est pas bien, bien bon. On est tellement habitué que c'est plus facile derrière un écran, tu sais, puis on s'apprend rien ce matin, là. Mais moi, demain matin, je te l'ai déjà dit, Yann, je tombe célibataire. Je sais franchement pas comment recommencer à dater, là. Hey, j'ai pas envie des applis de rencontre.
Sérieux? Oui, je comprends. Mais c'est beaucoup plus facile en 2025 que les années... mettons, je parle pour ma gang, là, les années 70, 80, 90.
C'est plus facile à cause des connexions Internet. Mais je veux dire, de rencontrer... Je me sentirais weird, moi, d'aller voir le gars à l'épicerie et te dire, hey, je te trouve vraiment mignon.
Mais il y avait d'autres canaux. Tu sais, on passait par les amis des amis. Ouais. On allait dans un bar, puis on jasait, on s'échangeait les numéros de téléphone. Puis après ça, on s'appelait. Tu sais, c'était comme d'autres canaux qu'on utilisait, qu'on n'utilise pas vraiment aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais ça que ça revienne à ça, tu sais. Une fille comme toi qui tombe célibataire, écoute, moi, j'avais à peu près une vingtaine de gars à te présenter, là.
Ouais.
Il y en a 19 là-dedans qui sont pas recommandables.
Ben, c'est ça, j'allais te
mais
dire.
Mais c'est des bons chums quand même.
Il y a ça aussi qui est toujours difficile quand tu fais confiance à tes amis, là.
Vas-y, tu vas pouvoir le changer.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est l'autre problème, Yann. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent être Mère Teresa. J'ai été longtemps cette femme-là.
Tu vois?
Hey, mon doux Seigneur, tu sais qu'avec mon chum, là, c'est après à peu près un an et demi avant qu'on soit ensemble parce qu'il était trop fin. J'y avais comme pas de...
Salue les gars qui sont un peu traumatisés de leur secondaire. Là.
Absolument.
T'es tellement fin
absolument.
Que je t'aimerais mieux comme ami.
Et puis je me juge entièrement pour ça, là. Mais je veux dire, quand tu rencontrais le gars qui était un peu mystérieux, un peu, tu comprends, qui avait des mauvais plis, on dirait que dans ta tête, tu disais, ouais, mais pour moi, il va changer s'il m'aime. tu te faisais accraire bien des affaires. Puis on dirait que c'était valorisant de te dire que tu étais la fille spéciale, tu sais. Fait que effectivement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par ces gars-là assez facilement. Il y a quelqu'un qui nous dit à la Saint-Valentin, moi je reste chez moi, dater, sortir, rencontrer ce jour-là, je trouve que ça a l'air désespéré. Bref, pour moi, c'est pas mon cas. Je comprends.
Je te parlais tantôt de...
Ça t'a rendu moitié français, ça t'a rentré dedans.
Il y a un bout d'air qui a passé, je l'avais pas prévu.
Ouais, dans le fond, on respire.
Oui, c'est
oublie
ça.
Pas ça.
Oui, oui. J'étais tellement ému par le message. Je t'ai demandé, fallait que ça sorte. Wow. Mais c'est ce que je te disais tantôt. Les gens qui s'organisent des dates en gang le soir de Saint-Valentin, moi, ça serait mon prochain réflexe de dire « Ouais, ben regarde, tu sais quoi, le 14, j'hésiterais, mais mettons 16, le 16, 17, 18, 19, 20, on pourrait peut-être l'essayer, ce genre de soirée-là. Mais le 14, je resterais chez nous. »
Tu trouves pas ça malaisant, mettons, de cette espèce de dating-là, de gang-là, où quelqu'un te présente quelqu'un? T'as pas l'impression d'être observé? Moi, je veux dire, mes chums de filles me disent « Hey, on se fait une double date, là, ça va être le fun. » J'ai l'impression que je suis sous la loupe toute la soirée.
T'as pas connu les salles paroissiales où on avait 10, 11, 12, 13. Il y avait des discothèques pour les préadolescents. Puis après ça, à la fin de la soirée, c'était 3 slows.
Oh mon doux.
Tu sais, quand tu dis être observé, là,
non,
qui se levait pour aller chercher comme la première qui avait pigé un sac à face, là, lui, il avait de la pression. Puis le dernier, qui restait assis parce qu'il regardait les autres l'autre bord.
Ah, que c'est poche.
Puis c'était pas les premières à avoir pigé un sac à face.
Ah ouais.
Lui, il devait faire face à la fille qui arrivait, qui était peut-être pas son genre, puis il devait lui dire oui ou non, là.
Ouais, ouais, ouais. Non,
ça, c'était l'époque traumatisante chez nous. Là.
Peut-être qu'on est mieux en 2025, t'as raison.
Hey, vous autres, on est une génération tough. Swipe à gauche, swipe à droite, swipe à gauche.
Mais c'est mauvais, Yann!
Mais moi, fallait que je me lève pour aller chercher l'autre bord. Là, puis je risquais des noms constamment. Il n'y a rien de pire qu'un nom.
Je comprends ce que tu veux dire.
En
même temps, quand tu... oui, mais ça renforce le caractère. Puis quand tu trouves ta personne...
Ouais.
Ben je veux dire, tu sais communiquer, tu sais te regarder, tu sais te prendre de la bonne façon.
Après ça, on me reprochait de pêcher à la dynamite.
C'est une autre époque. J'aurais peut-être aimé ça, quoique être plus dans cette époque-là que celle d'aujourd'hui.
Bref, hey Marceau, j'ai bien fini mon poème pour votre célibataire. Ah, oui, ça, c'est. Je vais vous en parler. Ben, je pourrais peut-être vous en parler là parce qu'on doit faire.
Vous avez un projet vendredi, hein?
Oui, c'est ça. Vendredi, j'ai un projet. Pascal ne savait pas qu'elle avait un projet il y a de ça un mois, puis elle s'est ramassée avec un projet. C'est qu'en collaboration avec Fromagerie Victoria et Boutique au 7e Ciel, on veut envoyer de l'amour à Pascal.
Ah, c'est bon, ça.
Parce qu'elle, elle va être seule à Saint-Valentin, techniquement. Je pense qu'elle va s'organiser avec des amis de filles pour aller souper puis s'amuser comme pas possible. Mais j'aimerais ça qu'on y envoie de l'amour.
Oui.
Fait que des cartes des cartes pour Pascal, homme comme femme, soit dit en passant.
Mais t'es-tu d'accord avec
non,
ça?
Non, pas du tout. Okay, okay. L'utilisation de sa photo d'hier non plus.
Bien, j'ai vu ton post passer sur les réseaux sociaux puis je me suis dit, je suis donc bien contente que ça se fasse
soir. Me raboter de quoi? Là, tes arrangements funéraires sont-tu faits? Mais quelque chose du genre. Mais bref, j'ai reçu, contre toute attente, okay, j'ai reçu à peu près... je pensais en avoir 10 total toutes dans la semaine. Puis hier, je n'ai reçu à peu près une quarantaine.
Tabarnouche, tu me niaises,
tu? Des messages d'amour pour Pascal, il n'y en a aucun qui était qui est pas lisable.
OK.
Aucun poème
c'est quand
qui
même
était pas délicat,
lisable. C'est pas sale, là.
Aucun message qui n'était pas lisable. Il y en a qui étaient très, très drôles. J'ai même une carte d'amour pour Pascal de quelqu'un qui l'a connue alors qu'elle était tout bébé.
Oh mon doux Seigneur!
C'est une super de belle carte. Mais il y a quasiment 300$. Le Fromagerie Victoria donne 50$ au gars, 50$ à la fille. Donc 50$ de poutine des deux bords. Puis Mélissa Tessier du 7e Ciel, elle donne 100$ pour le gars, 100$ pour la fille. Donc il va y avoir deux gagnants. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est de m'écrire par Messenger puis de me dire qu'est-ce que Pascal représente pour vous puis à quel point c'est une personne exceptionnelle. Fait que j'ai envoyé de l'amour. Hey, je m'occupe de la célibataire de la place, là.
Mais tu fais bien.
Ouais.
Ça écoute, certainement, ça va lui donner la confiance d'essayer de rencontrer vendredi soir, mais qu'elle sorte avec ses chums.
Max me dit, pourquoi pas moi?
Ah.
Désolé, Max, je dois envoyer du Jean Leloup à l'instant.
Faut aller en musique.
Non, c'est ça. J'aurais répondu. Marc Hamilton, le microbiologiste, sera avec nous. Il est président fondateur d'Eurofin Environex et le plus grand laboratoire d'analyse au Québec. On va parler de microbes.
Oui.
On va parler de grippe. On va parler de germophobie.
Tout ça, là.
On va parler de tout ça.
Question de sécurité comme du monde.
D'ici là, si vous avez des choses pour nous, 418-971-1021, 418-971-1021, il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Voici Jean Leloup, balade de Toronto, sur Boulevard.
Aujourd'hui, la...
Oh, qu'on va s'amuser dans les prochaines minutes, les amis. On va apprendre plein de choses puisque j'ai le plaisir d'accueillir en studio Marc Hamilton. Marc Hamilton, qui est microbiologiste et président fondateur d'Eurofin Environex, le grand voyageur. Il a fait un tour par Bruxelles, Édimbourg, en Écosse et Paris. Colin, on peut-tu dire que t'es chanceux?
Ben, faut rendre l'utile à l'agréable. Faut penser que mon premier trip n'était pas d'aller en vacances. Ouais. On était beaucoup plus pour la business. Et tant qu'être rendu en Europe, oui. Regarde.
Tu visites, là.
T'es déjà rendu là, là. Fait que quand t'es en Europe, tout est proche. Tout est à moins de 2 heures. Fait que tu prends l'avion, le TGV, puis le train, puis t'es déjà rendu à destination. Puis c'est le fun là-bas, hein. Tu sais, c'est pas compliqué, les douanes, non? Autrement dit, tu rentres, puis c'est pas comme ici, ils te fouillent, la douane pose un paquet de questions, t'as acheté du stock, que tu rentres en...
c'est l'Union européenne.
L'Union européenne, c'est facile. Tu sais, il y a juste la devise. Ben, quand t'es en Europe, c'est l'euro, mais quand tu t'en vas, exemple, à Édimbourg, en Écosse, là, tu tombes dans le... pounds, donc la livre sterling qui coûte une fortune. Là, quand nous, on est vraiment désavantagés. Notre dollar canadien, surtout, il a perdu beaucoup de plumes là, depuis que Trump est là. Là.
Ouais.
Quand on voyage en Europe, là, c'est... On dit « Ah, c'est pas cher, mais t'es un peu, c'est en euros, là.
» Ouais, c'est vide les poches, là.
Quand tu prends ta carte de crédit, les frais, la conversion, c'est x2. Pas loin de x2. Fait que c'est sûr que ce qui paraît pas cher, un coup, quand tu reçois ton bill de carte de crédit, tu fais un saut.
Les paysages en Écosse, ça ressemble à quoi, Marc?
Écoute, en Écosse, t'as principalement deux régions. T'as les Lowlands puis les Highlands. Donc, quand on voit là, les films tournés en Écosse...
Islanders, en fait.
Les Highlanders, ouais. C'est pour ça qu'ils appellent ça Island, parce que c'est tourné dans les Highlands. C'est des paysages à perte de vue, de montagnes, de baies, de ruisseaux, de chutes. C'est très beau. Par contre, quand je suis allé... on sait qu'en Europe, l'hiver, ben, il n'y a pas de neige. Là. C'est une température qui varie entre 4 et 10 degrés. Et c'est très nuageux. Quand tu dis nuageux, là, c'est beaucoup de brume. Tu ne vois pas le ciel. Le temps est lourd. Il peut pleuvoir une fois par jour. Ce qui fait que le paysage, je n'ai pas pu en profiter pour voir la cime des montagnes. Puis profiter. Oui, ça fait des photos, mais ça fait des photos nuageuses.
Mais là, c'est ça j'allais dire. On a souvent l'impression, quand on parle de l'Écosse, que c'est tout le temps nuageux puis que ça fait un peu partie de l'expérience. Oui. Là.
Bien, tous les pays de United Kingdom, là, le Royaume-Uni, là, incluant même Londres et compagnie, c'est des pays où est-ce qu'on est plus souvent nuageux qu'ensoleillé. Surtout pire l'hiver. L'été, c'est moins pire, mais l'hiver, c'est sûr que la grosse différence, c'est quand on arrive au Québec, moi, je me rappelle, je suis arrivé samedi, il faisait super beau, gros soleil. Il y avait beau pas à faire moins 20, mais le soleil est mur à mur. Mais là-bas, même s'il fait 4 à 10 degrés, il fait chaud. Moi, là-bas, je trouvais qu'il fait chaud. Entre 4 et 10 degrés, les gens là-bas, c'est l'hiver, mais nous, c'est comme normal. Ça me manque de ne pas avoir ma dose de vitamine D, de soleil à tous les jours. Des fois, je me dis, je préfère un moins 20 ensoleillé qu'un 4 à 10 degrés nuageux, humide.
Ça se sent-tu, eux autres, sur leur comportement? Tu sais, des fois, nous, on se dit ici, ça m'affecte qu'il ne fasse pas beau depuis une semaine. On dirait que j'ai le moral bas. Est-ce que les gens, justement, ont l'air un peu plus démoralisés?
Les natives de la place n'en parlent pas du tout. C'est tout à fait
normal.
C'est normal. Puis quand tu leur dis qu'au Québec, présentement, il fait moins 20, et là, les autres, non, c'est comme, je préfère rester ici. Même s'il y a du soleil, on n'est pas formé, guiré pour avoir des températures avec de la neige, puis de la glace, puis bon, les charrues, tout ça qui passe.
Ouais.
Les autres, ils ont de l'air à... Ils voient ça vraiment différent dans leur tête.
Puis c'est très axé sur l'histoire.
En Écosse, c'est un pays qui n'a pas vraiment d'industrialisation comme ici. T'sais, les industries qu'on a, les minières, les alumineries, les papetières. Les gens vivent beaucoup d'industries au Québec, des matières premières. Là-bas, c'est un pays qui, strictement style gouvernemental, de sorte que c'est le gouvernement qui fait vivre le pays avec les écoles, les hôpitaux. C'est un pays axé beaucoup sur le tourisme aussi. Pays qui est très calme, paisible, axé beaucoup sur l'histoire. Fait quand tu vas à Édimbourg, c'est un pays qui, quand on va dans les pays d'Europe comme ça, le paysage est le même. T'sais, on voit l'infrastructure, c'est pas jeune. Le château d'Édimbourg, qui est vraiment en haut de la ville, ou qui créait une forteresse à l'époque, c'est vraiment une toute beauté à visiter. Puis il y a beaucoup de musées de l'histoire. Fait que quand tu arrives là, tu peux voir comment l'Écosse est partie, les conflits entre l'Écosse et l'Angleterre, les Irlandais, la déportation des Écossais au Canada. Hein, on sait que ça a commencé dans les années 1700-1800 dû à une famine qui s'appelait la moisissure de la patate. Parce que là-bas, il faut dire que c'est un paysage, que la terre, c'est pas une terre, bon, elle est fertile, mais là-bas, un des principaux aliments qui est consommé, c'est comme ici, les carottes, les patates, les navets. Et il y a eu ce qu'on appelle le mildiou de la patate qui a carrément détruisait, la moisissure qui détruisait les plants de patates. Et ça a créé une certaine famine en Écosse. Et ce qui a stimulé les Écossais, tout comme les Irlandais, entre autres, à s'en venir en masse au Canada, aux États-Unis. Et c'est ce qui a fait principalement les Écossais présents ici, en Amérique du Nord, cette fameuse famine-là. C'était pas parce qu'il y avait des conflits de guerre ou quoi que ce soit. Ils ont profité d'une déportation où est-ce que l'Amérique voulait venir au monde pour... s'emmener et créer des familles au Canada.
Tu as fait une petite recherche sur tes ancêtres. Est-ce que c'est toi, finalement, l'élu là, du roi d'Écosse? Hein? C'est-tu toi, finalement? T'es-tu le fils d'un roi? Dans ta lignée, as-tu des rois?
J'ai pas été capable de me rendre jusqu'à là. Moi, les premières origines, c'est le premier Hamilton de ma génération, du moins de ma lignée, qui est arrivé au Canada. Il s'appelait Charles Hamilton, qui c'était un Écossais d'origine. Et là-bas, curieusement, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que le nom Hamilton était écossais. Puis, à Édimbourg, il y a un musée des origines. Fait que tu peux même mettre ton nom, puis ils vont dire si tu es écossais ou quel pays que tu viens, avec toute l'histoire attachée à ça. Et j'ai découvert que mon nom Hamilton était à peu près... Il y a un château, hein, puis même il y a un duc d'Hamilton.
Bon, je le savais que Mark Hamilton, il y avait un château quelque part.
Ben, c'est pas moi, mais le nom.
Je trouve ça tellement hot.
Et j'ai découvert que l'origine du nom Hamilton est à peu près une centaine de kilomètres au sud d'Édimbourg. C'est là que le nom est venu au monde. Parce que, puis, quand tu vas en Écosse, tu sais, il y a beaucoup de noms écossais, comme, je pense, un nom comme Harris, McKenzie, il y a plein de noms purement écossais, puis tu peux voir dans la région de l'Écosse où est-ce que le nom est venu au monde. Et on voit, quand tu vas là-bas, l'Écosse est beaucoup axée sur l'histoire. Donc, c'est un pays qui a beaucoup plus à découvrir du passé, bon, au futur, et quelque chose qui fait vraiment... que j'ai découvert là-bas, c'est la monnaie. La monnaie, on sait que c'est la livre sterling, hein, du moins tout le Royaume-Uni. Et quand tu arrives en Écosse, à un moment donné, j'étais avec le chauffeur de taxi, puis il me dit « Tu payes ça en quoi? » Ben là, je lui dis « Je paye ça en pounds. » Mais il dit « Pounds anglais ou pounds écossais? » Oh, je lui dis « C'est quoi la différence? » Ben il dit « Au niveau de la valorisation, c'est la même affaire. » Autrement dit, un pounds, on sait que c'est quasiment x2 par rapport à la valeur de notre dollar. Puis il me dit, ben les Écossais, on a un pounds écossais. Où est-ce que c'est pas la photo de la reine qui est sur le dollar? OK. Puis quand tu prends un pounds vraiment de l'Angleterre, t'as la photo de la reine, un peu comme on a ici. Et il disait, ben nous, c'est parce que nous, on est en conflit. On fait partie du Royaume-Uni, mais les Anglais, les Écossais, tu sais, veut dire, c'est comme historique. On s'est jamais vraiment aimé.
De nombreuses guerres.
C'est comme un peu, ouais, exactement, mais c'est un conflit qui existe depuis plusieurs générations qui fait qu'eux ont développé leur propre monnaie, qui n'est pas moins chère, mais qui vraiment Banque de Scotland, puis
propre à eux.
Ça m'avait surpris. Puis ils disaient que les Irlandais avaient le même topo aussi.
Quelle belle histoire. Je suis un peu jaloux de ton voyage.
Et moi aussi, là.
C'est vraiment le fun. Il faut prendre le temps. Hein. Ouais. Faut marcher beaucoup, découvrir. Je suis allé faire le lac le plus connu au monde entier, qui est le lac Loch Ness.
Loch Ness.
Et j'ai découvert quelque chose. Écoute, c'est peut-être que le monde le savent déjà, mais Loch... ça veut dire lac en écossais. Donc, c'est le lac Ness. Moi, j'ai toujours pensé que c'est Loch Ness, tu sais, le lac Loch Ness. Mais là-bas, il faut dire que t'as beau à bien parler anglais, quand tu vois un vrai écossais avec leur langage, c'est un mot sur trois.
Ouais.
Puis, ils ont une prononciation qui vient de la gorge. Que nous autres, on va dire Loch Ness, eux, on va dire Loch Ness. Tu sais, ils vont chercher un côté
ça fait viking, là, un peu.
Viking, tu sais, Loch Ness. Puis, OK, il faut que tu te fasses l'oreille. Puis, quand le guide nous expliquait tout comment ça fonctionnait, t'as un mot sur trois, là. Fallait que tu sois très attentif et que le micro dans l'autobus, pas évident. Mais j'ai navigué sur le Loch Ness, qui est un grand lac, un des plus grands lacs d'Écosse, très, très long, très, très profond, 4 km de profondeur, aussi profond d'où est-ce qu'il est Titanic, là, proche de Terre-Neuve. C'est très profond. On n'a pas vu Nessie.
Non.
Qui est le... Par contre, Nessie, ils ont quand même $1 million sous sa tête si on est capable de la prendre en photo, mais ça reste quand même une tradition.
Il y a quelques apparitions là, à chaque année. Il y a des gens qui prétendent l'avoir vu.
Le monstre.
Prise en vidéo. Parce que c'est important, je veux dire, pour le secteur. L'histoire du monstre du Loch Ness rapporte des millions et des millions de dollars pour une petite bourgade.
Ça vient d'où cette histoire-là? C'est... Parce que moi, on me l'a raconté toute ma jeunesse, mais je ne sais pas, il est né où, ce monstre-là?
Ça fait une centaine d'années. Bon, c'est une légende. Tout se base sur une photo qui a été prise dans les débuts des années 1930. Et la légende est partie de là. Ça a toujours été, on va découvrir, et même... Dans le bateau qu'on avait pris, c'était un bateau qui avait plein de sonores, qui faisait qu'il y avait des écrans qu'on pouvait voir partout où on était à la profondeur du lac. Puis si on voyait une bébite se promener, qui allait plus sortir du sonore, c'est plus qu'un poisson rouge. Là. Et des fois, c'est gros ça, c'est probablement quelque chose de gros, mais tu sais, c'est pas Nessie. Fait que c'est très folklorique de voir ça et ça fait vivre toute une région, la région d'Inverness, qui est dans les Highlands, vraiment quelque chose de très beau à voir. Comme je vous disais, l'hiver, peut-être les paysages sont peut-être moins évidents à cause de la brume et des nuages et de la pluie, mais c'est vraiment quelque chose de très beau à voir côté paysage.
C'est sûr.
Quelque chose qui me fait penser un peu la Cabot Trail, si ceux qui ont déjà fait des voyages dans le bout de la Nouvelle-Écosse. C'est des paysages un peu ressemblants à la Cabot Trail, là, avec toutes les montagnes,
c'est
les paysages.
Ça, c'est très, très beau.
Dans les livres en Écosse, il y a un auteur qui a parlé pour la première fois d'un monstre dans ce lac-là en 1898, puis on a baptisé Nessie en 1930.
OK.
Fait que c'est beaucoup d'histoires, mais le tourisme est basé sur le monstre du Loch Ness.
Absolument.
Mais pour les gens qui y vont, ils le voient pas la plupart du temps, mais c'est tellement joli, ce coin-là, ça a l'air que ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Mark Hamilton, microbiologiste, on a plein de sujets à aborder avec toi tout au long de l'émission. Commençons avec un sujet bien simple, c'est l'eau. L'eau qui est si importante à nos yeux, si importante pour la vie. Moi, j'ai travaillé en Beauce pendant quelques années, puis il y avait une grosse discussion à Sainte-Marie-de-Beauce sur le fait... De fluorer l'eau pour le bien-être des dents, des enfants, puis des adultes et tout ça. Puis il y a des gens qui se présentaient au conseil de ville, qui levaient le poing dans les airs, puis qui étaient vraiment choqués en disant « C'est des produits chimiques, on veut rien savoir de ça ». Donc, il y a quelques bourgades au Québec qui ont déjà parlé de ça. Il y a un endroit en Beauce où on l'utiliserait encore peut-être, ce fameux fluor dans l'eau. Je sais que dans le secteur de Montréal, ça a fait partie des discussions dans les derniers mois. Mais il y a aussi du chlore qu'on met dans l'eau à la grandeur du Québec. À long terme, est-ce que ces produits-là peuvent être néfastes pour la santé?
Bien, si on commence par le fluor, qui est une composée complètement différente du chlore ou du chlorure, là, le fluor, comme tu dis si bien, c'était très populaire des années 80, principalement pour améliorer l'émail de la dent. Il disait qu'on veut que les enfants aient moins besoin d'aller chez le dentiste, éviter les caries. Fait qu'on en a mis dans de l'eau potable. Partout au Canada, et surtout au Québec, plusieurs villes, Montréal, La Beauce, écoute, il y avait une liste dans les années 80-90, c'était très populaire, il y a environ 0,7 mg par litre de fluor qui était utilisé, et ça l'a arrêté, comme je vous dis, parce que la seule vertu du fluorure, c'était, bon, on va améliorer les dents, et on sait que seulement 1% de l'eau potable qui est produite, on la boit. Tout le reste, on se lave avec, on arrose notre jardin, donc il y a un gaspillage terrible d'eau. Puis il disait pour 1%, avec les frais associés à la fluorisation, les équipements, l'entretien, à un moment donné, les gens ont dit, ben écoutez, aujourd'hui, on a juste à éduquer les gens à mieux se brosser les dents. Et ça s'est abandonné. Même Montréal, il y avait Dorval, toute l'Ouest Island, Pointe-Claire, qui était encore fluoré. Et ça a été abandonné à fin d'année 2024 pour des raisons financières principalement, parce qu'ils devaient renouveler leur équipement de fluorisation. Puis là, ils disaient, bon, certains environnementalistes, bon, oui, ils disaient que le fluorure à la longue pouvait être un agent corrosif pour les tuyaux, même si c'était à très faible quantité, mais c'est le fait d'être toujours en présence. Ouais. Et ils disaient qu'on ne sait pas si le fluor qui rejette, ben la fluorure, pas fluor, le fluorure, qui est rejeté dans les égouts pouvait avoir un néfaste, quelque chose de néfaste sur la diversité marine, sur toutes les poissons, okay. les mammifères marins, qui est en contact avec le fluorure. Donc, ils ont dit, ben écoutez, on va arrêter ça. Mais la seule ville qui semble encore utiliser le fluorure au Québec est Saint-Georges-de-Beauce. Qui, eux, l'utilisent encore comme agent anti-carie, si on veut. Donc, c'est carrément un luxe qu'ils se paient, que, du moins que les gens payent les taxes en conséquence. Souvent, en restant là, c'est pas gratuit.
C'est gratuit, mais non.
Et le fluorure, bien, il reste que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours pour ceux qui se lavent les dents. On sait que quand on prend un dentifrice, il contient du fluorure. Donc, pour l'être humain, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire associé à la présence de fluorure. Le fluor est utilisé principalement pour renforcer les mailles de la dent.
Puis, est-ce que le fluor, le fluorure, c'est la même famille?
Bien, le fluor, c'est l'élément F qu'on retrouve dans le tableau périodique des éléments.
Ça, c'est dans l'écorce terrestre.
Ben oui, exactement, mais c'est un gaz. On sait que le fluor, c'est un gaz très toxique, c'est un gaz ultra-corrosif, et on prend le fluor pour faire du fluorure, donc on va le mettre en composé avec un sel qui va rendre le fluor solide et beaucoup moins dangereux. Donc, c'est une composante complètement différente du fluor à l'état pur qui est utilisé dans d'autres types de procédés. Mais oui, effectivement, le fluor est un composé chimique naturel.
Puis le fluorure, est-ce que c'est un déchet chimique?
Donc, ben, le fluorure est une composante, ben, comme je vous disais, autant utilisée dans l'eau,
ouais.
parce que tu as du chlore puis tu as du chlorure. Prends juste un exemple, le chlore pur, c'est gazeux aussi. Donc, c'est très corrosif, très dangereux. Mais quand on fait de l'hypochlorite de sodium, de l'eau de Javel, ben, c'est un chlore qu'on a jumelé avec un sel, du sodium, pour en faire une solution ultra-désinfectante, blanchiment. Mais c'est des composantes du produit chimique naturel consommées avec un sel, comme du fluorure de sodium, ce qu'on retrouve pour brosser les dents. Ben, c'est un composante entre le fluor et du sel qui a fait un composante différente qui fait que le produit est beaucoup moins néfaste et des propriétés qu'on recherche à cette
ce qu'on met dans la piscine, là, c'est du avec du sel. Ah oh non, c'est du chlore pur.
Bien, c'est pas de l'ure. C'est l'hypochlorite de sodium. Autrement dit, c'est de l'eau de Javel qu'on met. Quand on met...
C'est pour que ça soit transformé.
C'est juste que... Oui, parce que du chlore pur, il y a des endroits qui, lorsque c'est bien contrôlé, ils vont, comme il y a certaines piscines municipales, ils vont utiliser un mélange de chlore gazeux pour chlorer les piscines parce que ça en prend beaucoup moins, c'est beaucoup plus concentré. Par contre, c'est ultra dangereux à manipuler, donc ça ne se fait pas comme nous, on va mettre une petite poque de chlore, comme on dit, mais on ne devrait pas dire du chlore, on devrait dire de l'hypochlorite de sodium qu'on met, qui est en sel, ou le même type que de l'eau de Javel, donc c'est un agent qui est de blanchiment, c'est un agent aussi désinfectant qui permet entre autres d'aider à détruire des algues, détruire des bactéries qu'on ne veut pas avoir, que ce soit dans une piscine, que ce soit dans un spa aussi. On sait que quand on va dans un spa, ça sent le chlore. Hein?
Ouais.
Ben, c'est justement pour garder l'eau le plus claire possible sans accumulation de bactéries indésirables.
Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, quand je bois de l'eau en ville, donc l'eau directement de la Champlure, ça sent cette odeur de chlore-là? C'est-tu parce qu'à un moment donné, ils en mettent un peu trop, la mauvaise recette? Puis à long terme, est-ce que ça peut être dommageable pour les êtres humains?
Bien, il faut penser que le chlore, c'est quand même assez odoriférant. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour sentir. Le minimum qu'on doit mettre dans l'eau potable, c'est environ 0,2 mg par litre. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. À 0,2 mg par litre, on le sent pas, on le goûte pas. Par contre, il n'y a aucune municipalité qui garde ça à 0,2 parce que le chlore, à la longue, dans les conduits, ça s'évapore. Qui fait que si on le garde à 0,2, à la station la station qui va shooter le chlore dans l'eau potable, bien, il y a un endroit qui shoot du chlore, on va dire du chlore, et à l'extrémité du réseau, où est-ce que l'eau se rend, bien, il y a le temps de s'évaporer, qui fait qu'il n'en reste plus. Donc, à ce moment-là, la probabilité que des bactéries reviennent. Donc, ils en mettent beaucoup plus que 0,2. Ils vont en mettre 0,8, 1,2, 1,4 ppm, si tu veux, milligrammes par litre. Et c'est sûr que si votre maison est située pas très loin de la station de pompage ou d'une place où est-ce qu'on va booster le chlore, bien, c'est sûr qu'on va goûter plus parce que là, on est à 1 mg de chlore. C'est évident que ça sent la piscine. C'est évident que ça va goûter un peu le chlore. Des fois, on prend notre douche, puis, oh, il y a une petite drape de chlore qu'on sent. Mais... Le but de ça, c'est d'éliminer les présences de bactéries fécales, comme le E. coli, ouais. comme les coliformes totaux, comme les entérocoques, qui fait qu'à un moment donné, quand vous entendez avis d'ébullition dans une municipalité, bon, qui peut être dû à une présence de E. coli, ben les gens vont arrêter de boire l'eau. Ils vont envoyer du chlore vraiment plus élevé pour faire un peu un flash, éliminer les bactéries qui se retrouvent.
Puis la santé des gens là-dedans?
C'est pas nocif. Le chlore n'a pas assez quantité de milligrammes-là. Il n'y a aucune étude qui a prouvé que l'hypochlorite de sodium utilisé dans ces quantités-là pouvait être dommageable. Donc, soit causer des brûlures, causer des problématiques de santé, cancérigènes. Non, il n'y a aucune étude que j'ai trouvée qui corroborait que le chlore était un ingrédient néfaste pour la santé.
L'effet qu'on chlore notre eau, est-ce que c'est ce qui fait en sorte que quand on voyage, souvent on se fait recommander de ne pas consommer l'eau sur place dans certains endroits? Tu sais, on parlait d'aseptisation la dernière fois qu'on s'est jasé. Est-ce qu'on ne se nuit pas plus qu'autre chose? Parce que moi, je nous écoute parler puis je me rends compte que c'est ça que mon eau, il n'y a pas grand-chose dedans, là, à part de l'eau.
Moi,
là.
J'ai connu un ancêtre qui était mon ancien beau-père que j'adore, que je salue parce que je sais qu'il nous écoute. Lui faisait bouillir son eau.
Oui.
Puis parce qu'il avait l'impression qu'il tuait tout ce qu'il pouvait y avoir de mauvais mm-hmm. là-dedans. Puis après ça, il me mettait dans une cruche. Puis mm-hmm. c'était sa cruche d'eau potable.
Oui, c'est parfait.
Le chlore, est-il encore là?
Non, du moment qu'on le fait bouillir, ou même si vous voulez enlever le goût du chlore, si vous n'aimez pas ça, prenez un filtre Brita. Un filtre qui contient du charbon actif. Je dis Brita, mais n'importe quel filtre qu'on peut mettre à la sortie de votre aqueduc, là, de votre champlure, mettez-en un qui contient du charbon actif et vous allez enlever le goût et la senteur du chlore. Et l'eau va être aussi bonne que si vous la feriez bouillir, par exemple. C'est sûr que quelqu'un... Pourquoi qu'on recommande toujours de faire bouillir une eau brute? Une eau brute étant, exemple, j'ai une belle rivière à côté de chez nous, l'eau est claire, je vais en prendre une gorgée. Bon, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans cette eau-là. Qu'est-ce qui crée qu'une eau, même si elle est claire comme de l'eau de roche, peut nous intoxiquer? C'est que, bien souvent, les animaux qui, dans la forêt, vont aller s'abreuvoir du ruisseau, vont s'abreuvoir de la rivière, souvent, ils vont faire ce qu'on appelle leurs besoins pas loin. Ou lorsqu'il y a des ruissellements, des fortes pluies en forêt, les fortes pluies vont lessiver les terrains autour du lac, de la rivière, et emmener une décharge de matière organique ainsi que fécale des animaux qui sont entourant les lacs et rivières, et augmenter cette charge de coliformes, si vous voulez, mm-hmm. qui va créer une problématique de santé chez nous. Donc, de faire bouillir notre eau brute, qu'on appelle une eau non chlorée, c'est très bon pour éviter ça. Par contre, pour revenir, Audrey, à ta question, on va dans tel pays, puis ils ne font pas bouillir ou ils ne font pas chlorer. Ça va selon toujours avec notre système immunitaire. Nous, notre système immunitaire n'est jamais confronté à une présence d'une bactérie fécale ou coliforme parce que depuis notre naissance, on boit de l'eau traitée, on boit une eau qui est saine, qui n'a à peu près pas de bactéries pathogènes. Et lorsqu'on arrive dans un endroit où est-ce que, bon, une petite municipalité, puis l'eau ben, est jaune ou peu importe la couleur, puis oups, on commence à pogner une petite diarrhée par après, ben c'est ça. C'est que notre système n'a pas été en contact avec certains types de bactéries qui d'origine coliforme et on réagit par rapport à ça. Donc, nous, au Canada, au Québec, ben on a adopté des normes d'asepsie justement parce qu'on a les moyens de se le permettre, puis on a l'infrastructure, les réglementations qui nous permettent de consommer une eau qui est propre à la consommation, au même titre que le lait, on le pasteurise. Mmh. Donc, le lait pasteurisé, les fromages pasteurisés, donc, en pasteurisant le lait, on évite d'être en contact avec des bactéries de type Listeria, qui bien souvent, quelquefois, les vaches sont porteurs de cette bactérie-là qui peut nous causer une maladie qui s'appelle la listériose. Donc, principalement, lorsqu'on fait pasteuriser notre lait, pasteuriser ne veut pas dire faire bouillir, hein, on s'entend. En faire bouillir l'eau, vous allez faire bouillir l'eau à 100 degrés Celsius, mais pasteuriser, vous allez monter le lait à une soixantaine de degrés. Donc, il ne bouillera pas. À 60 degrés Celsius, ça tue toutes les bactéries pathogènes qu'on ne veut pas avoir. Par contre, ça ne rend pas le lait stérile. C'est pas comme du lait Grand Prix. Prenez du grain Grand Prix qui a été bouilli, si vous voulez, puis on le laisse à la tablette, puis après un an, le lait n'a pas changé de couleur. Donc, du lait Grand Prix, ça a un petit goût aussi, mais c'est du lait qui a été, qui a été traité à ultra haute température. Donc, on l'a comme stérilisé, qui fait qu'il ne reste plus de bactéries résiduelles qui fait que le lait va virer, va cailler, va changer de goût après un mois, par exemple. Donc, c'est des petites différenciations comme ça.
Marc, après la pause, on a encore plein de sujets à jaser avec toi, entre autres le vapotage.
Oui.
De plus en plus, l'industrie du vapotage a pris une place importante dans le marché. La cigarette a été tassée, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais... on va se demander, est-ce que c'est plus nocif le vapotage que la cigarette? Qu'est-ce que ça apporte aux poumons, le fameux vapotage? Donc, on vous invite à rester là. Je vous rappelle qu'on a le plaisir de cet après-midi, ce matin, du moins, quand tu travailles le matin, le midi et le soir, c'est assez compliqué. On a le plaisir, ce matin, d'être avec Marc Hamilton, microbiologiste, qui est président et fondateur d'Eurofin Environex. C'est le plus grand laboratoire d'analyse au Québec. Si vous avez des questions pour lui, 418-971-1021, 418-971-1021. Et juste avant la pause, j'ai des billets pour Cypress Hill. Cypress Hill qui revient avec la tournée canadienne au Canada Biz 2025 qui va être en spectacle à l'Agora du Port de Québec le 21 mai prochain. Vous allez revivre littéralement votre adolescence, j'imagine, avec des invités spéciaux qui seront là. Donc, ne manquez pas Cypress Hill en concert. Vous pouvez vous procurer vos billets sur evenco.ca. Evenco.ca. J'ai une paire de billets à l'instant. 418-971-1021. 418-971-1021. La question, Audrey.
La question...
Il te reste 3 minutes.
De quoi on parle avec Marc Hamilton au retour de la pause?
Oh, t'es bon. 11h06. Dans le retour. 11h45, Audrey Pinchot qui est tout sourire. Je pense qu'elle l'aime beaucoup, notre Marc Hamilton.
Ah, absolument. Puis je vais te le dire en face. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand il y a des coups de cœur au niveau des invités comme ça, on essaie de les garder proches. Puis je suis fascinée chaque fois que tu viens nous visiter parce que c'est le genre de sujet sur lequel je suis peu informée, pour être bien honnête. Fait que j'absorbe l'information assez facilement.
Et après ça, on retourne dans nos familles, on répète intégralement ce qu'il
puis
nous
on a
dit.
Puis on a l'air intelligent.
Puis on a de l'air
exactement.
Intelligent. Exactement. Non, mais puis là, la Saint-Valentin arrive. Là. Fait que là, les gars qui nous écoutent, ils vont ramasser de l'information.
C'est le temps d'avoir l'air intelligent.
Puis ils vont faire du mansplaining à leur conjointe.
Bon,
écoute,
bon.
Moi, je pourrais te dire, j'ai une petite formation en microbiologie. Là.
Ça se passe bien.
Marc Hamilton est microbiologiste et président fondateur d'Eurofin Environex. C'est le plus grand laboratoire d'analyse au Québec. Si vous avez des questions pour lui, 418-971-1021, 418-971-1021. Puis by the way, l'entrevue sera disponible en podcast dans les prochaines heures sans aucun problème. Donc, les gens qui viennent de se joindre à nous, vous allez entendre l'intégrale au blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard. Marc Hamilton, la cigarette, on connaît les effets néfastes de la cigarette. Là, avec le temps, ça a été prouvé. Bon nombre de personnes l'ont malheureusement appris au détriment de leur santé. Ces gens-là, certains ne sont plus de chez nous. Le problème, c'est que là, nos enfants ont viré ça vers la vapoteuse. Mm-hmm. Et moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est très jeune, qui avait 15 ans et j'ai découvert une vapoteuse. Et là, j'ai eu une petite discussion avec elle et elle m'a dit « Non, non, c'est juste pour le fun. »
Ça le problème.
C'est juste, ça goûte les bonbons.
C'est ça, c'est cool en ce moment
peut,
dans les écoles.
Ça peut pas me tuer, ça goûte les bonbons. T'en penses quoi de ton point de vue de microbiologiste, là, la fameuse vapoteuse? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits-là qui pourraient être néfastes pour l'être humain?
Ben, écoutez, c'est sûr que historiquement parlant, la vapoteuse, ça fait pas des millénaires que ça existe. Là. Les premières vapoteuses qui sont venues sur le marché, ça date de 2011. Donc, ça fait 14 ans seulement que la vapoteuse existe. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. De sorte qu'on n'a pas beaucoup d'historique associé à une utilisation à long terme de la vapoteuse. Ouais. Mais pour répondre à ta question, Yannick, qu'est-ce que ça contient une vapoteuse? Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Tu sais, c'est pas comme la cigarette qui dit « Ah, oh, j'ai 1000 ingrédients, puis des produits chimiques, on en peut finir. » Donc, on parle plutôt de 4-5 ingrédients qui est principalement de la glycérine végétale, du propylène glycol. On va avoir un peu d'alcool pour un peu là, diluer tout ça ensemble. On va avoir de la saveur, pour ceux qui en rajoutent. Et on va rajouter de la nicotine. Donc, pour jusqu'à 20 mg par litre. Ouais. Donc, 20 mg par litre de produit. Par millilitre, excusez. 20 mg par millilitre de liquide qu'on appelle du e-juice. Pour vous donner à quoi sert, c'est principalement ces composantes-là. Si on prend la glycérine végétale, on recommande toujours d'avoir le plus bas minimum possible, puisque la glycérine végétale, c'est un peu comme le corps gras qui est dans le liquide et qui est responsable aussi à la fameuse fumée dense. Donc, plus, quand on vapote, plus la fumée est dense, la grosse boucane blanche. Mais souvent, tu vois un jeune qui choke, puis là, tu vois la grosse boucane sortir de l'auto. Là.
Ouais.
Ça veut dire sa glycérine végétale qui est en proportion très élevée. On va aller chercher 60-70% de glycérine végétale. Donc, plus la glycérine végétale est élevée, moins c'est bon pour l'environnement du poumon. Parce qu'il faut penser une chose. Quand vous regardez une voiture, puis que vous regardez le pare-brise de quelqu'un qui vapote, passez juste votre doigt sur le pare-brise ou sur une vitre latérale, vous allez voir le corps gras, vous allez pouvoir même signer votre nom dans la vitre à force que le corps gras est imprégné si vous ne l'avez pas vos fenêtres souvent.
Donc, imaginez. Dans le poumon, c'est la même chose.
C'est la même affaire. Il faut penser une chose. Puis ça, c'est une phrase que je dis à chaque personne qui commence à vapoter ou même fumer. Je disais que l'être humain est le seul être vivant de la planète qui se met d'autre chose que de l'air dans les poumons.
Ah, tu m'avais dit aussi, il y a de ça quelques années, Yann, je sais que c'est drôle à dire, mais les poumons, c'est fait pour respirer de l'air.
Oui.
Donc, seulement, normalement.
Le but, c'est pas d'y mettre d'autre chose que de l'air. T'sais, mais là, quand on se force à y mettre le vapotage...
Ouais.
Mais tu sais, le vapotage, quand ça a été créé, beaucoup de médecins spécialistes, des pneumologues, des cardiologues disaient « Enfin, on a une alternative pour les gens qui veulent arrêter de fumer. » Parce qu'on n'avait que les timbres et la gomme.
Ouais, c'était censé être une solution.
Oui, parce que tu avais la chance de diminuer la nicotine semaine par semaine que tu mettais dans ce produit-là. Fait que les médecins, ils voyaient un effet bénéfique. Là.
Exact. Puis, tu sais, pour la personne qui est accoutumée à avoir tout le temps quelque chose dans la bouche, ben pour elle, elle ne souffrait pas de dire, ben là, tu sais, je choke, je fais comme je fume, mais je commence à un certain nombre de milligrammes pendant tant de semaines, je diminue, jusqu'au temps que j'arrive à une concentration de zéro, et après, j'arrête. Ça, c'est tout à fait normal et c'est la bonne chose à faire. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Écoutez, je pense que les gens qui arrêtent de fumer, qui prennent le vapotage, c'est rendu une infime partie de pourcentage de gens qui vapotent. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les jeunes. Puis comme tu disais si bien, des jeunes, là, des jeunes adolescents qui n'ont jamais fumé de leur vie puis qui décident de vapoter pour le plaisir. Parce que mon ami vapote, parce que c'est cool, ça goûte bon. Puis le problème là-dedans, c'est qu'ils rajoutent tout le temps, ben, je vais en prendre qui contiennent de la nicotine. Ils prennent pas des e-juice qui n'en contiennent pas, parce qu'il y en a le choix. Il y a des choix qu'il n'y en a pas.
Ouais. Ils rajoutent une dépendance.
Ils en rajoutent avec du 6 mg, ou un 12 mg. Puis là, c'est jamais assez fort, c'est rendu du 20 mg.
À quoi ça peut... C'est quoi l'équivalence, mettons, pour se donner une idée avec la cigarette?
Oui.
Parce que j'imagine que ça peut devenir excessivement nocif à un certain point, là.
Prenez un exemple, une cigarette, là, bon, je peux la nommer, une Players, une exportée, ces choses-là, là. Une cigarette va contenir environ 2 mg de nicotine. Bon, une cigarette ordinaire, là, ça peut être entre 1 et 3, tout dépendant si elle est légère ou pas. Et si vous prenez un liquide de vapotage, bon, 1 millilitre que vous consommez, que vous vapotez, 1 millilitre, mettons que vous prenez un dosage à 20 mg, donc c'est 20 mg dans 1 millilitre de vapotage. Bon, prenez qu'une cigarette, ça a 2 mg, vous prenez 1 millilitre d'une solution de 20 mg de nicotine par millilitre. Donc, on peut penser que lorsque vous vapotez 1 millilitre, c'est comme si vous avez pris 10 cigarettes en nombre de nicotine consommée. De sorte que si vous en prenez 2 puis 3, moi, je connais des gens qui prennent jusqu'à 3 millilitres, donc ils la remplissent souvent. Là. Les gens ne regardent pas la quantité qu'ils prennent, ils la remplissent. Mais si les gens prennent 3 millilitres, bien, c'est comme s'ils auraient pris 30 cigarettes par jour en termes de nicotine.
C'est une drogue addictive.
Absolument.
Mais c'est surtout que ces gens-là, s'ils fumaient la cigarette, n'auraient probablement pas fumé autant de cigarettes.
Non,
je connais pas les habitudes des fumeurs, là, mais moi, j'avais une amie qui a arrêté maintenant, mais qui fumait à peu près 3-4 cigarettes par jour. C'était juste son petit moment personnel. Mm-hmm. 3-4, dans ma tête, c'était déjà beaucoup. On dirait, je peux pas imaginer 10, 20, 30.
Ah oui. Ouais. Marc, il reste à peu près 3 minutes dans le poumon, là, une fois qu'il est bien engraissé. Est-ce qu'on a de la littérature sur les impacts à long terme? Y a-tu, parce que la cigarette, nous autres, ça sonne cancer ou si on regarde sur les images de paquets de cigarettes, je ne sais pas si tu as vu
dernièrement. Des trous dans la gorge.
C'est juste hallucinant. Donc, on connaît les impacts de la cigarette. Comme la littérature n'est pas encore on point, là, on est rendu où dans ce qu'on sait versus ce qu'on va peut-être savoir dans 10 ans?
Il y a des histoires quand même assez impressionnantes de gens qui vapotaient puis qui ont rentré à l'hôpital avec des sévères bronchiolites. Une bronchiolite, c'est quoi? C'est une inflammation des bronchioles, des bronches, si on voulait, dans les poumons, à un point tel que l'inflammation a amené une restriction, donc une maladie pulmonaire obstructrice chronique. La personne n'était plus capable de respirer normalement, avait perdu une capacité pulmonaire vraiment importante qui fait qu'elle a resté avec des séquelles permanentes par la suite, même si elle avait arrêté de consommer. Elle est restée quand même avec une maladie qu'on appelle MPOC, donc une personne qui a besoin de pompes par la suite pour se désengorger les poumons. Et il y a plusieurs histoires ou des cas vécus qui sont véhiculés sur Internet qui... le vapotage à la longue, dites-vous une chose, crée de l'inflammation pulmonaire. Parce que le cœur, comme tantôt je disais, le poumon n'est habitué que de recevoir de l'air dans celui-ci. Et lorsqu'il est en contact constamment avec un corps étranger qui est, bon, si le vapotage, il va se créer de l'inflammation. Et lorsqu'on crée de l'inflammation à long terme, bien, il va se créer des problématiques potentielles à ce qu'il y ait des mutations qui vont se créer au niveau du tissu du pulmonaire et créer des problématiques d'inflammation ou chronique ou de cancer. Et comme vous le savez, la cigarette, ça a pris plusieurs années avant qu'on ait des cancers associés à ça, parce que c'est pas parce qu'on fume une cigarette par jour une fois dans notre vie qu'on va avoir le cancer. Ceux qui attrapent le cancer, c'est ceux qui l'ont vraiment fumé pendant une longue période. Et on sait que le vapotage, ça fait seulement 14 ans que ça existe. Donc, on peut penser que dans 10, 15, 20 ans d'ici, on va avoir beaucoup plus de littérature, beaucoup plus de maladies associées à le vapotage, quelqu'un qui vapote de manière chronique, et qui va potentiellement, et pas mal certains aussi, créer des maladies pulmonaires à long terme, qui est en même à créer certains cancers. Ouais. Donc, comme je disais, le vapotage se doit d'être utilisé à un point de vue thérapeutique pour diminuer, du moins, quelqu'un qui fume, d'arrêter de fumer, beaucoup plus que de l'utiliser pour un loisir. Et aussi, il y a certaines composantes qui sont dans les liquides de vapotage qui créent, par exemple, la saveur. Une saveur qu'il ne faut surtout pas prendre, c'est la saveur, entre autres, de barbe à papa. Donc, quelqu'un qui aime le goût de la barbe à papa, il y a des études qui ont été faites, puis même nous, on en a fait une il y a quelques années dans nos laboratoires. Il y a une composante cancérigène qu'on appelle du diacétyl. Et d'être en contact avec du diacétyl, oui, c'est une substance qui est cancérigène. Donc, il y a certains ijos, certaines saveurs qui, bien souvent, ne sont pas réglementées. On s'entend, il faut faire... Tu sais, quelqu'un va dire, mais je commande, ça goûte le raisin, ça goûte les framboises. Est-ce que le produit a été testé? Est-ce que le produit est analysé, à savoir, est-ce qu'il y a des produits qui ont été utilisés qui sont cancérigènes pour créer la saveur? Il n'y a pas d'études de fait là-dessus. Ce n'est pas entériné par Santé Canada, ces produits-là, qui fait qu'on ne sait pas ce qu'on consomme et on peut malheureusement consommer une composante qui est potentiellement cancérigène.
Marc, en 30 secondes, est-ce que le poumon... Parce que le corps humain est bien fait, là. Dès qu'il y a un corps étranger, il s'arrange pour essayer de l'expulser le plus possible. Est-ce que cette graisse-là qu'on met à l'intérieur des poumons, est-ce qu'elle est expulsée?
Le corps va finir par l'éliminer. Ce qu'on appelle, il va avoir une nécrose, pas une nécrose, mais je dirais une espèce de régénération naturelle des poumons qui va se faire, qui fait que le corps, ce qui crée de l'inflammation, justement, c'est une réaction immunitaire qui fait que le corps va essayer de se régénérer. Donc, le fait que les poumons viennent quelque peu enflés, c'est pour essayer de se régénérer. Mais lorsque cette inflammation-là, le fait qu'on n'arrête jamais de vapoter, cette inflammation-là rempire parce que le corps veut s'en débarrasser, comme tu dis. Mais s'il veut se débarrasser d'un corps étranger, il va se créer de l'inflammation. Et cette inflammation-là, à long terme, va créer des problématiques qu'on ne veut pas avoir. Mais effectivement, quelqu'un qui arrête de vapoter demain matin, ben oui, je ne peux pas dire c'est après un an, deux ans, trois ans, six mois que le fameux poumon va redevenir rose comme d'origine. Mais on sait qu'un fumeur qui a fumé toute sa vie arrête de fumer. Les études le disent, ça prend sept ans avant que la personne qui le poumon il est bien, bien noir parce que c'est un fumeur, avant qu'il devienne rose comme d'origine, peut aller jusqu'à 7 ans d'arrêter de fumer. Le vapotage, que c'est moins, je n'ai pas ces données-là, mais il reste que, oui, le poumon pourrait revenir d'origine s'il n'y a pas eu de fait.
Quand on a des chums de hockey qui arrêtent de fumer, hein, leur T-shirt qu'ils mettent en dessous de leurs épaulettes blanc, là,
oui.
Ils tordent, là, Audrey, puis c'est brun. Parce que ça sort au travers de la peau. Ben, je ne sais pas si c'est ça, mais nous autres, ils nous l'avaient montré. Là, son gilet était blanc, puis quand il tordait, ça sortait brun. Il avait arrêté de fumer, ça faisait peut-être 2-3 mois.
Mais je trouve ça intéressant de savoir qu'après 7 ans, par exemple, ça se régénère un peu dans la mesure où il y a bien des gens qui sont découragés d'arrêter de fumer en se disant « de toute manière, je suis foutu ». Fait que si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une bonne raison pour éventuellement
s'insister. Puis, peux-tu te dire une dernière anecdote? Il y avait un de mes bons amis, dans le temps que je restais à cette île, il dit, moi, Marc, j'arrêterai jamais de fumer. Puis c'est un fumeur vraiment invétéré. Il s'allumait avec son botch, là, tu sais. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, moi, mon médecin m'a dit que fumer tue lentement.
Dieu. C'est cocasse.
Hey, Mark Hamilton, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur les zones de Boulevard. Mark Hamilton est microbiologiste et président fondateur d'Eurofin Environex, le plus grand laboratoire d'analyse au Québec. Je te souhaite de passer une belle semaine parce que tu reviens de vacances. Fait que là, la job au bureau s'est accumulée. Fait que t'es dans le trouble. Je sais pas si tu vas être prêt pour la Saint-Valentin. D'après moi, tu es obligé de travailler, mais ça, tu t'organises.
C'est la Saint-Valentin tous les jours. Oui. C'est une date comme
c'est
un autre.
Oh, ça, j'aime ça.
Ça, c'est un cheap. Il veut pas acheter de cadeau le 14.
On ne sait pas.
Merci beaucoup. Nous autres, on s'arrête, les amis. Juste avant de vous quitter, j'ai quelque chose pour vous autres. Je le fais à l'instant, Audrey, oui, parce que tu me l'as écrit. Pour la 3e édition, l'événement caritatif le plus saisissant de l'année aura lieu le samedi 15 février, donc ce samedi, le lendemain de la Saint-Valentin. Ça va se passer de midi à 15h au village nordique du port de Québec. Allez faire un tour avec les enfants. Vous allez ramasser énormément de souvenirs-là. Vous n'avez pas idée, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Venez encourager tous les participants qui vont sauter dans les eaux glacées du Bassin-Louise lors du défi de l'ours polaire. C'est un événement caritatif qui est organisé par la course aux flambeaux des agents de la paix qui permet de financer des programmes olympiques spéciaux Québec pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle. Donc, pour plus d'informations, visitez le Facebook du défi de l'ours polaire 2025 édition Québec. On s'arrête là-dessus, Audrey?
Yes.
Je te souhaite de passer une belle fin de journée. On t'écoute avec Véro.
Et Max.
Et Max, parce que Denis est encore en problème. Il fait 36 heures qu'il est au lit.
Ah, il est malade, là.
Particulier. On se jase tout de suite après. Émile Bilodeau, crise existentielle.
Oh, c'est clair, c'est l'enfer.